Hello. Firstly, I'd like to thank, if I look at my French, it's very good. I'd like to thank everyone for the invitation to
merci,
speak here.
Tout d'abord, merci de m'avoir invité.
Not just brilliant to get an invitation.
C'est fantastique d'être invité pour
it was also
une conférence à Paris, mais aussi de participer à ce colloque et à ce thème.
Because in my own field of media studies or
dans mon champ des media studies, il y a eu un retour vers l'économie politique et un retour vers Marx. Mais je ne crois pas que c'est du marxisme classique. Il y a une reconstitution du marxisme, ce qui est fantastique, par exemple. Alors, je pense que c'est le bon moment pour avoir ce genre de colloque sur ce thème, justement.
So what I'm going to talk about today,
alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un travail qui émerge du travail que j'ai fait pour l'ouvrage que j'ai publié, The Digital Housewife, la ménagère numérique. Ne l'achetez pas. C'est beaucoup trop cher. Laissez tomber. Envoyez-moi un mail et je vous envoie le PDF. Voilà, avec plaisir.
Just don't tell my publisher.
Ne le dites pas à mon éditeur, hein, simplement. Alors, ce qu'on travaille sur la relation entre marxisme féminin, travail domestique et la consommation des médias numériques pour ce livre, les problèmes avec les qualités attribuées au sujet assumé supposé de la théorie du travail devinrent de plus en plus apparents et j'ai eu de plus en plus de soucis avec les assumptions, les présuppositions dominantes sur le sujet économique et la manière dont le travail productif était défini et les histoires du travail qui en étaient tirées. Donc, les questions qui venaient de mon analyse des théories féministes m'ont permis d'avoir de nouveaux cadres critiques qui me permettaient de mieux viser mon objet, quoi. En particulier, la manière dont on pouvait critiquer le concept d'aliénation qui est, moi, en tant que bon théoricien des cultural studies, j'ai toujours lutté avec ce concept. Donc c'est avec ça c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, cette question de la théorie de l'aliénation, et je voudrais notamment particulièrement utiliser l'économie queer pour analyser ce concept critique. Donc ce que je vais faire, c'est une sorte de dialogue entre la politique de l'identité et le marxisme, et voir ce qui se passe à la fin. Alors, pour illustrer tout ceci, je vais utiliser des exemples, tirés notamment des liens entre des interactions entre privé, public, intime et commercial, associées avec les potentialités, les affordances des applications de drague masculine. L'étude de ces applications de drague, c'est le problème de s'en remettre à la thèse de l'aliénation sur la personnalité pré-politique, la vraie personnalité qui serait générée dans les contextes d'intimité hétérosexuelle. Donc je vais voir comment on peut critiquer la critique de l'aliénation tout en pensant les subjectivités relationnelles contextualisées proposées par la pensée queer et féministe. Le concept d'aliénation est central dans le retour à Marx, et notamment dans mon champ des médias numériques. On s'en sert dans les conditions du travail de consommation, où l'exploitation formelle est souvent débattue, et notamment cette question de l'utilisation des données pour vendre des espaces publicitaires, etc. On en parle souvent dans en conjonction avec une critique politique qui veut que ces conditions manifestent l'aliénation des usagers. Donc les critiques de la propriété, de l'homogénéité des médias et l'importance de la culture participative tirent toutes leur idée de cette conception que notre aliénation par la culture et les produits que nous consommons ont à voir avec l'activité interpersonnelle dans des systèmes de médias capitalistes. C'est au cœur du travail de Dallas Smythe sur le public marchandisé, hein, comme Jude Soot Jali et Billy Vant l'expliquent. Cette idée de Smythe est une critique idéologique de l'aliénation plutôt qu'une discussion vraiment économique. Donc on voit aussi la perpétuation de la position de Smythe dans les critiques du travail numérique, notamment qui s'inspire du marxisme autonomiste, qui est assez en vogue aujourd'hui. C'est vrai notamment des travaux de Mario Tronti autour de la fabrique sociale, notamment aussi chez Hart et Green. C'est peut-être un peu moins vrai ici en France. Ça vient d'être traduit apparemment. Donc la fabrique sociale, ça vient en France. Vous pourrez bientôt le découvrir. Donc le long débat sur la question de la participation dans les médias numériques est aliénée ou permet les capacités d'agir. Bon, c'est ce vieux débat. Elle démontre l'impact constant de la thèse de l'aliénation dans mon champ de recherche. Néanmoins, les qualités aliénantes des médias numériques et de la fabrique sociale doivent être reconsidérées quand on les considère avec les expériences de travail des groupes subalternes, comme les femmes, comme les queer, comme les gens de couleur. Comme l'explique Cathy Weeks, le concept d'aliénation évoque un soi donné, notre séparation, dont la séparation constitue une crise. C'est le centre de la thèse de l'aliénation. Ce soi donné est un sujet humaniste qui manifeste une subjectivité qui est associée avec la conscience, la rationalité universelle et la régulation de son propre comportement éthique. Donc pour cet acteur, ou pour parler en termes marxistes des êtres génériques, est défini en termes d'autonomie et d'autodétermination. Cet individu qui se possède lui-même est le sujet à partir duquel Marx propose sa critique et dont la tragédie est l'aliénation générée par le capitalisme. Dans cette conceptualisation du sujet, il y a cette réalisation du soi autonome, en dehors des dictats du capitalisme, un sujet qui est articulé dans la sphère publique, différencié de la sphère publique, du commerce et de la politique. Ce sont des espaces où l'activité doit être une expression de la créativité et d'affect essentialisé. Dans le contexte hétéropatriarcal blanc, néanmoins, ça implique l'espace privé de la famille nucléaire. Et c'est dans ce genre d'espace que le sujet humaniste est considéré comme capable d'articuler le soi privé indivisible de l'être générique, de telle sorte que les interactions domestiques et privées sont souvent considérées comme la solution à l'aliénation et à d'autres problème du capitalisme. La sphère privée est un refuge pour l'aliénation, notamment pour la ménagère. Un autre aspect de l'aliénation de soi, c'est qu'elle n'est pas déterminée par des objectifs instrumentaux, mais par des échanges sociaux et des obligations réciproques. Ça, c'est le contexte de l'intimité personnelle qui est toujours distingué des abstractions de l'échange marchand. Donc, c'est dans les espaces de relations interpersonnelles privées, notamment les relations sexuelles, que nous disons que nous pouvons trouver une vraie personnalité, notre vrai être générique. Donc, l'espace domestique, privé, intime, est compris comme la base d'une humanité pré-politique dans laquelle les citoyens sont censés, à partir de laquelle les citoyens sont censés trouver un peu un discours politique et dans laquelle ils retournent pour trouver toujours un futur imaginaire après le conflit politique.
constituted in intimate areas of life outside of, and indeed prior to, am I going too fast?
A little bit, just I'm just calculating, sorry.
Intimate areas of life outside and indeed prior to interactions with others and social structures.
Dans ces espaces privés, antérieurs à l'espace social, mais l'espace politique, lui, genré, sexualisé. Et donc l'autonomie qui est censée venir de tel genre de contexte n'est pas universelle. Alors, on a tendance à considérer ces espaces comme seulement des espaces d'hommes en bonne santé, hétérosexuels, blancs, etc. Donc, au cœur de la thèse de l'aliénation, il y a un sujet qui est exclusif. On peut voir qu'il y a un défi à la logique de la thèse de l'aliénation, notamment dans les pratiques de la culture queer, et notamment quand elles sont médiées par la technologie numérique. Donc, par exemple, les environnements en ligne sont souvent considérés comme permettant la définition de soi, notamment des identités gays ou queer. Donc, selon la logique de la thèse d'aliénation, elles ont un potentiel en offrant les conditions d'une articulation publique du soi, de la capacité d'agir, des êtres génériques. Mais cette manière de rendre public certains sujets, le fait de se rendre public a une résonance particulière et une force particulière dans les théories queer. Comme le dit Eve Sedgwick, c'est une histoire incohérente. Pour beaucoup de gens gays ou queer, notamment s'ils sont aussi impliqués dans des relations hétéronormatives, le privé ne peut pas être un espace sans entrave d'expression de soi. On peut dire le même à partir de à propos du public, lorsque où la violence et où les questions de secret ont souvent été plus importantes. Le secret ouvert de l'homosexualité défie le concept du privé, du fait de se faire soi-même dans l'espace privé, qui participe de la thèse de l'aliénation. Cette complexité peut être observé dans les applications de drague queer, notamment. Dans la politique de l'identité gay, il y a cette idée que les individus queer désirent une visibilité et que ça, c'est un des moyens pour articuler la capacité d'agir. Sharif Molaboukus a étudié notamment les cyber cottage hookup sites, les sites de rencontres qui permettent justement l'activité sexuelle anonyme grâce à des sites dans l'espace public, des sites internet qui permettent, des applications qui permettent de retrouver quelqu'un pour avoir des relations sexuelles dans les espaces publics. Bon. Parce que ces sites sont utilisés pour rencontrer, etc., notamment. Cette étude de Molaboukus était caractérisée par la visibilité et l'instabilité. Il n'y a pas de continuité. Il y a une espèce de... On s'en sert plus. Il y a un balancement comme ça, ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment dans une pratique stable. Et donc, ces genres de sites, à la fois les sites en ligne et les espaces géographiques, sont utilisés de façon inconsistante. Les usagers ne s'investissent pas assez dans leur profil et dans la communauté du site. Donc, ces sites et ces pratiques associées avec ces applications ne sont pas des espaces de réalisation de soi. Néanmoins, dans les usages de tels sites, il y a bien de la création de sujets queer qui nous donne des choses sur justement l'autonomie décrite dans la thèse de l'aliénation. Il décrit notamment des expressions temporaires et tactiques des identités queer dans lesquelles les usagers évitent le désir sexuel, évitent de lier le désir sexuel à des identités sexuelles bien précises. Donc, le soi privé est clairement pas le lieu d'une capacité d'agir personnelle ou politique, et pas plus d'ailleurs le soi gay public. Ça défie notamment les prérequisites de la thèse de l'aliénation, dans le sens où il y a une retraite vers le privé qui serait le lieu d'une vraie identité. et de cette idée que l'identité, cette identité-là serait la seule qui serait singulière. Donc, ce qu'on voit aussi dans le sexe anonyme médié par les implications de drague, c'est qu'on pourrait caractériser tout ça comme instrumental et une version ignoble de l'intimité sexuelle. C'est particulièrement le cas, notamment parce que ces activités sexuelles sont opposées à l'utopie de l'appartenance sociale. Mais, dans une logique marxiste, ça facilite justement l'être générique. Dans les applications dans les applications qui proposent des rencontres chez quelqu'un, où par ailleurs il y aura plus de liens, notamment l'usage de drogue aussi, on voit que la distinction entre intime et jeu peut être très floue dans ce genre de culture. Donc dans ce genre d'études, on voit que les relations sociales et économiques notamment, qui sont mises en œuvre dans les échanges sexuels, ne sont pas prédéterminées, peuvent être créées par les interactions, créées de façon nouvelle à chaque nouvelle interaction. Donc implicitement ou explicitement, les participants négocient une marchandisation de l'intimité, acceptable, plus ou moins. Donc avec cette économie complexe, il est difficile parfois de penser la drague grâce à des applications d'un côté ou de l'autre de la division entre marchandise et don. Parce que, et donc par conséquent, ce qui est aliénable et ce qui permet la réalisation de soi est parfois une marchandise, parfois n'est pas. Donc c'est pas clair, les frontières sont pas tout à fait claires entre justement selon que ces désirs et ces pratiques sont des interactions et des articulations des êtres génériques, quoi, authentiques. Dans une autre application de drague en ligne, on a aussi le rôle d'acteurs technologiques dans la conception de ce genre d'activité queer et de subjectivité de communauté queer. L'activité sexuelle est parfois parle de la question de ce qui est inaliénable et ineffable. Mais sur ces sites, souvent, il y a une logique de machine abstraite permet néanmoins des formes d'interaction sociale. Les identités associées à ce genre d'application ne peuvent pas être des singularités, car elles sont à la fois un peu machines et donc toujours hybrides. Donc, dans ces études, on n'a pas l'articulation de la possession de soi ou la relation privée d'espace non marchand, comme dans la critique de l'aliénation. Plutôt, ce qu'on voit dans ces exemples, c'est des identités et la valorisation de pratiques qui sont relationnelles de façon inhérente. Donc, la drague médiée par le numérique passe par, défie la thèse de l'aliénation pour trois éléments. Hein. Ils interrogent le primat du fait de se faire soi-même en privé. Rendre flou la division entre relations marchandes et non marchandes, ou marchandises et non marchandises, et puis il nie la singularité de l'objet. À Dublin, dans la marche des fiertés à Dublin récente, il y avait beaucoup d'anticapitalisme, de slogans anticapitalisme, mais en fait c'était des plein de groupes finalement qui étaient pour la fierté entrepreneuriale aussi. L'existence même de ce John Demilio, d'homosexuels, dépend du capitalisme. D'après lui, le capitalisme a détruit la maisonnée patriarcale. Et donc, le produit du travail de la femme n'est plus simplement dans la femme, et du coup, ça libère un espace pour justement l'affect et l'intimité, etc. Donc pour lui, le capitalisme a permis la libération de la sexualité de l'impératif de reproduction de la force de travail. Et ça suggère une relation fondamentale des pratiques de fabrication de l'identité gay avec l'infrastructure capitaliste qui implique la qualité déjà aliénée de ce genre de se fabriquer soi-même. Donc la subjectivité queer ou non queer ne peut que être instable, un concept relationnel qui est rendu sensible au sein du capitalisme tardif. Comme le veut Donald Morton, l'attribution de désirs libres à déterminer aux sujets queer qui ont émergé à ce que, comme des acteurs politiques dans les années 90, les associe à l'individualisme autocentré du sujet bourgeois finalement. Et cela, ça situe les plaisirs queer, l'identité queer, la capacité d'agir queer dans une matérialité capitaliste. Et du coup, on n'a pas cette indépendance, cette autonomie qui est associée à l'être générique. Et donc, on a cette nouvelle question. Est-ce que si l'identité queer contemporaine émerge de tel contexte d'aliénation, alors comment pouvons-nous proposer des alternatives à l'aliénation sans des implications génocidaires pour ce genre d'être?
Are
you doing very well? Thank you. That's a
chat.
Alors, la relation complexe de la subjectivité queer gay au capitalisme suggère que les modèles économiques des médias placent la figure du sujet non aliéné au centre de leur calcul et donc ne proposent qu'une expérience particulière qui n'est pas du tout universelle. Ça, c'est une critique commune au sein des théories queer, féministes et du travail. La même critique peut être appliquée lorsque on parle de l'expérience des consommateurs ou les usagers au sein des numériques, des médias numériques, pardon, capitalistes. Donc la thèse de l'aliénation, pour comprendre le travail de consommation, a finalement défini le problème de la commercialisation du web et les projets critiques qui cherchent des alternatives à ce problème en posant un retour au commun, à l'économie du don, comme solution. Néanmoins, ces modèles nient le lien avec d'autres relations de pouvoir qui délimitent la capacité à articuler l'être générique à certains acteurs. Ça soulève de nombreuses questions pour tout projet critique. À quoi ressemblerait la désaliénation pour toute personne qui ne serait pas blanc, cis, hétérosexuel, bien portant, mâle? Donc cet état d'autonomie de la personnalité qui fait partie de la thèse d'aliénation n'est pas toujours disponible et nous invite à questionner son applicabilité à la question de l'analyse des économies culturelles. Je ne veux pas me débarrasser totalement de la thèse d'aliénation. Je ne veux pas jeter le bébé critique avec l'eau du bain théorique. Le concept d'aliénation comme effet de la dynamique des relations de propriété capitaliste a une utilité claire, évidemment, pour comprendre la manière dont l'activité est médiée en ligne est rendue étrange et finalement rendue à ses usagers. Je pense notamment aux impacts de l'activité en ligne dans les algorithmes de personnalisation, par exemple, ou leurs usages pour des états policiers, de surveillance, évidemment. Donc ce qu'il nous faut, c'est mobiliser un concept critique de l'aliénation sans pour autant partir de ce sujet autonome, universel, qui situe la question de l'identité personnelle dans les espaces privés. Il faut aussi qu'on ait un projet critique avec une fin qui n'est pas basée sur cette subjectivité essentialisée. On peut s'inspirer encore une fois de Mola Bocuse, dont l'analyse de la marchandisation des corps mâles sur Gaydar, l'application Gaydar, permet de voir des formes de différence dans les identités gays à partir d'une idée mythique, d'une unité ou d'une autonomie précapitaliste. Plutôt, il interroge les relations socio-économiques qui sont le soubassement de la lisibilité de telles performances, au moment où elles sont articulées et où elles sont consommées, en montrant ainsi les contradictions, les qualités contradictoires de telles positions, et nous permet ainsi une analyse plus nuancée du pouvoir. Donc tout ça nous permet, il faut intégrer ce genre de critique dans l'analyse de la constitution des pratiques, des subjectivités, des communautés qui sont examinées. Ça veut dire aussi les capacités résistantes ou transgressives. Donc utiliser la thèse d'aliénation à la lumière de la critique que j'ai proposée ici nous demande d'être ambivalent sur la nature des produits inaliénables et des expériences inaliénables et leur rôle dans la production du capitalisme. Notamment, ça attire notre attention vers la fabrication du sujet associé avec les médias commerciaux, qui manque de cohérence dans les termes qui sont requis par les cadres capitalistes, plutôt que de manifester une quelconque authenticité mythique. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas unique ce que je dis, c'est pas révolutionnaire pour les théoriciens culturels que vous êtes. Ça articule simplement des positions déjà existantes concernant l'identité queer et ses pratiques, tout en les mettant en relation avec le marxisme, notamment par ce terme de « être générique ». Ça peut aussi représenter éventuellement ma propre petite... petit voyage dans ma carrière universitaire depuis cet ouvrage dont je vous parlais, La ménagère numérique, et mes travaux récents sur les médias numériques, etc., et toutes mes interrogations sur la question de la critique de la thèse de l'aliénation. Mais il faut souligner la critique marxiste et les approches critiques, enfin culturelles marxistes, doivent être articulées si on veut comprendre la complexité riche des relations de pouvoir contemporaines, socio-économiques, et comment elles se manifestent dans des produits culturels. Pour en revenir à Janet Winterson, que je cite dans le titre de ma présentation, je suggère que Marx ne peut pas être le seul fruit si nous devons bien comprendre l'économie politique culturelle.